Voilà, alors bonjour à tous pour cette dernière rencontre de cette série. J'ai pensé partager avec vous un texte qui, à mon sens, complète bien la réflexion qu'on a eue jusqu'à présent. Hier soir, on a, pour ceux qui étaient là, on a parlé sur la dimension de la solitude et de ce désir aussi que Dieu a de nous rejoindre. Et non pas simplement de nous rejoindre pour être avec nous comme ça, mais pour nous mettre au travail avec lui, pour que notre vie trouve un sens dans la conjonction de sa volonté avec notre volonté, dans cette collaboration, comme Paul l'appelle, collaboration avec Dieu. C'est quand même une expression assez incroyable, hein, voire un peu prétentieuse de se dire qu'on collabore avec Dieu à quelque chose. Et ce matin, on va voir ensemble un texte, une parabole, en fait, dans Matthieu 25, depuis le verset 14, la parabole des talents. Si vous avez lu le thème de ce matin, vous avez peut-être imaginé qu'on allait prendre ce texte-là, puisque le titre de ce matin, c'est Quel talent? Donc voilà, c'est bon, je n'ai pas été chercher très loin pour le titre, on y est tout de suite. Donc je vous lis ce texte dans la version de la Taube, Matthieu 25 depuis le verset 14. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant: Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit: Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. S'avançant à son tour, celui qui avait reçu 1 seul talent dit: Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit: Mauvais serviteur, timoré. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Voilà un texte bien connu, comme la plupart des textes de l'Évangile, un texte qui va nous rejoindre et nous occuper pendant ce matin, cette histoire des talents. Le texte nous dit qu'il y a 3 personnages, et ça, c'est assez étonnant. Dans les paraboles de Jésus, en règle générale, enfin pas en règle générale, d'une manière systématique, il y a toujours 2 possibilités, 2 fils. Voilà, vous pouvez prendre toutes les différentes paraboles, vous vous rendrez compte que c'est toujours comme ça. C'est soit blanc, soit noir. Il n'y a, semble-t-il, pas 3 possibilités. On aimerait bien des fois qu'il y ait une voie médiane, mais Jésus n'aime pas beaucoup les voies médianes. C'est assez tranché, ces positions. Or, dans cette parabole, eh bien, il y a 3 serviteurs. Mais si on creuse un tout petit peu plus, on se rend compte que ces 3 serviteurs se démarquent en deux zones bien claires, les deux bons serviteurs et le serviteur inutile. Donc on retrouve, malgré cette espèce de trilogie de départ, ce dualisme cher à Jésus. Il donne à chacun, voilà, il va partir en voyage, hein, et il donne à chacun quelques talents. Alors, au premier, il en donne 5, au deuxième, il en donne 3, au troisième, il en donne 1. Le texte grec nous dit qu'il donne à chacun, non pas selon ses capacités, comme c'est traduit dans la Tobe ou dans beaucoup d'autres versions, mais il donne à chacun selon sa force. Il faut savoir qu'un talent grec, pèse un peu plus de 25 kilos. Donc un talent, c'est une mesure, c'est une unité de mesure pour mesurer les quantités d'argent ou d'or. Donc il donne à celui qui a beaucoup de force, il donne 125 kilos de métal, hein, au deuxième, il lui en donne 75 kilos, et au troisième, qui ressemblait peut-être, il lui en donne que 25, parce qu'il a moins de force que les autres. Donc on a déjà une première indication de la manière dont Jésus nous traite, c'est qu'il ne nous traite pas d'une manière qui est, systématique, on est tous à la même échelle, on reçoit tous les mêmes, voilà, c'est très égalitaire. Hein, non, il va regarder qui on est, et en fonction de qui nous sommes, de ce que nous pouvons être, de ce que nous pouvons faire, il va nous donner plus ou moins. Donc, à celui qui a beaucoup, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de force. Il peut repartir avec ses 125 kilos de talent, ses 5 talents. Le mot talent est un mot piégé, parce que dans notre langue, ça signifie quelque chose qui est un don, une compétence. Or, ce n'est pas du tout le mot d'origine. Comme je vous l'ai dit, le talent, c'est simplement une unité de mesure. En français, on s'est inspiré du mot latin « talentum » pour créer ce mot « talent » qu'on utilise aujourd'hui pour les dons, pour les compétences. Et c'est intéressant parce que les spécialistes de la langue nous apprennent que si cette parabole n'existait pas dans l'Évangile, eh bien, le mot « talent » en français n'existerait pas non plus, et du coup on n'aurait pas de mots pour parler des compétences, de ces dons qui sont soit des dons reçus, soit des dons acquis, innés. Hein? Donc on serait un tout petit peu perdu avec notre langue, mais ça nous pose aussi un piège, parce qu'immédiatement, quand on lit la parabole, on fait la permutation entre la somme d'argent qu'ils ont reçue et les compétences que l'on a soi-même. Et donc, on devrait peut-être, dans un premier temps, remplacer le mot « talent » par le mot « lingot », puisque c'est de ça dont il est question physiquement au départ, pour mieux comprendre un tout petit peu les enjeux et ce qui se passe. Donc, imaginez qu'un homme repart avec 5 lingots, un autre avec 3 lingots, et encore un autre avec un lingot. Voilà, ils ont reçu quelque chose, un don, un cadeau, et avec ce cadeau, ils vont devoir le faire fructifier. Et c'est alors que le maître part. Et là, on entre dans quelque chose de très moderne, parce qu'on entre dans le télétravail. Le patron n'est plus là, on est chacun chez soi, et quand on est chacun chez soi, on fait un peu ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous avez travaillé à distance, ceux qui travaillent encore, qui ont cette chance de travailler encore. Si vous avez travaillé à distance, moi j'ai travaillé pendant des années, j'ai fait du télétravail pendant des années, j'ai beaucoup aimé ça, mais ça demande une certaine discipline. Il faut, quand on se lève le matin, voilà, il faut se donner des règles, un horaire, s'astreindre à une certaine discipline, parce que c'est assez facile de se dire « Oh, aujourd'hui il fait beau, je vais aller faire un tour, ou je vais aller m'installer au jardin, je vais profiter. » Et puis le temps passe, la journée passe, et au final, on n'a rien fait du tout. Donc, quand le patron vous dit « Ben oui, tu peux travailler à la maison parce qu'avec ton ordi, tu peux, voilà, ça va très bien », ça veut dire que le patron vous fait confiance. S'il n'a pas confiance en vous, eh bien, il ne va pas vous confier cette possibilité. Ou alors, il va mettre un tas de mesures pour vous contrôler. Le maître de la parabole ne contrôle pas. C'est quelqu'un qui part, et il part très loin et très longtemps. Il donne une véritable fortune à ses serviteurs, et puis il s'en va. Et il se dit, je verrai bien quand je rentrerai ce qui va se passer. Donc ce texte commence par nous dire une chose extrêmement importante. Non seulement Dieu est généreux avec nous, mais en plus, Dieu est extraordinairement confiant. Il nous fait confiance. On connaît cette histoire de Jésus qui arrive au ciel après l'ascension, donc jeudi dernier. Il arrive au ciel et puis il y a ces anges qui sont là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont là. Tout le monde l'accueille, tout le monde est content de revoir Jésus qui revient au ciel dans sa gloire. Et puis on lui demande, mais voilà, qu'est-ce que tu as fait? Quelle structure tu as mise sur pied pour que toute ton œuvre que tu as fait sur la terre continue, que voilà, que le salut, l'évangélisation du monde, toute cette immense tâche se fasse dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que tu as développé comme projet pour arriver à faire ça, hein, comme un bon chef d'entreprise? Et Jésus dit, écoutez, j'ai rencontré 12 gaillards assez sympathiques, pas plus compétent que ça, mais sympathique. Et puis, je leur ai un peu parlé, j'ai essayé de leur expliquer. Je ne suis pas certain qu'ils aient tout compris. Mais bon, voilà, sur les 12, il y en a déjà un qui n'est plus là, quoi. Mais il en reste 11. Et puis, je leur fais confiance. Et les anges disent, non, mais attends, c'est pas possible, tu peux pas faire les choses comme ça. Voilà, c'est du sérieux, tu es mort sur la croix pour ça. Je veux dire, tu as payé un prix incroyable, tu peux pas juste leur faire confiance. Ils sont pas fiables. Et Jésus leur dit, j'ai rien prévu d'autre, il n'y a pas de plan B, je leur fais confiance. Je leur ai donné, je leur ai donné tout ce que j'avais, tout ce que j'étais. J'ai mis ça entre leurs mains. Je suis remonté au ciel et maintenant, je leur fais confiance. Et ça, c'est l'incroyable défi que Jésus nous montre, nous révèle dans cette parabole. Cette confiance incroyable que Dieu nous fait. Ça, c'est la première leçon que j'aimerais que nous essayions de retenir. Nous ne sommes pas des personnages que Jésus est toujours en train de soupçonner de faiblesse, d'incompétence, de trahison possible, etc. Non, quand Dieu nous regarde, il nous regarde avec extraordinairement, non seulement d'empathie, mais d'amour, de tendresse et d'espérance. J'ai lu cette phrase ce matin qui dit « Aimer quelqu'un, c'est espérer en lui ». Et Jésus nous aime et Jésus espère en nous. Quand il nous regarde, il porte sur nous un regard d'espérance. Ça, c'est quelque chose qui doit vraiment nous habiter et nous permettre de nous dépouiller, peut-être pas définitivement parce que je pense que c'est des choses qui reviennent régulièrement, mais de nous dépouiller de tous ces sentiments d'incompétence, d'infériorité, de doute, etc. Toutes ces choses qui font qu'on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'il y a plein d'autres gens qui font beaucoup mieux le travail et que, on n'est pas vraiment bien. Non, si Dieu nous fait confiance, c'est qu'il a des raisons de nous faire confiance. Et Dieu nous donne une richesse incroyable et le fait de posséder cela, ça doit nous pousser en avant. Maintenant, vous me direz, oui, mais c'est quoi ce talent? Ça que je reçois, 1, 3, 5, ou peut-être d'autres plus encore, 25, 50 talents, j'en sais rien. C'est quoi ces talents? C'est quoi cette richesse que Dieu nous donne? Alors les théologiens ne sont pas tous d'accord. Certains disent que c'est les dons du Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision-là, parce que ça voudrait dire, si c'est les dons du Saint-Esprit, qu'on a tous la même quantité, parce que le don du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui ne se divise pas. On reçoit le Saint-Esprit et il agit en nous. Je ne pense pas que ce soit que cela. Je pense que c'est à la fois le don du Saint-Esprit, mais aussi ce que nous sommes dans notre humanité, avec aussi ce que nous avons autour de nous. Nous ne sommes pas identiques les uns avec les autres. C'est d'ailleurs intéressant de vivre un culte où on se voit chacun les uns chez les autres, hein, chacun chez soi, je veux dire. On voit un tout petit peu dans quel environnement nous vivons et on se rend compte que, voilà, on n'est pas tous dans des environnements semblables. On est chacun est différent. Comme le texte le dit, chacun selon sa force. Nous recevons, nous avons reçu, nous possédons des compétences, des richesses, des possibilités qui sont différentes en fonction de qui nous sommes. Et ça fait notre identité, je crois, fondamentalement. Ça donne notre identité. Donc arrêtons de dire « je ne suis pas doué ». J'entends souvent quand je commande ce texte, et que j'ai des gens vraiment en face de moi, pas seulement par écran interposé, les gens disent « Ah oui, mais moi, j'ai pas reçu grand-chose. Moi, je ne suis pas doué. » Non, nous sommes tous extrêmement doués. Simplement, des fois, il faut un petit peu chercher ce don, apprendre à le reconnaître. Et puis, il y a, vous savez, dans l'Évangile, il y a souvent cette espèce d'inversion des valeurs. Jésus a cette capacité assez extraordinaire. On citait tout à l'heure le texte des Béatitudes, « Heureux ceux qui pleurent hein, », ben voilà, ou « Heureux les pauvres ». Jésus a cette faculté d'aller chercher les choses dans leur aspect peut-être un peu négatif. Et je me demande si une de nos richesses, ce n'est pas parfois nos faiblesses, nos fêlures, les craquures, les craquements de notre être. Il y a quelques mois, j'étais dans une église pour une retraite d'un week-end, d'une église en France, et je n'étais pas du tout sur ce texte, mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai été poussé à parler d'une faiblesse qui m'habite, enfin, d'un certain nombre de faiblesses qui m'habitent, et en particulier de la dyslexie. Je suis dyslexique, en dyslexie profond, et j'exprimais ça, je ne me rappelle plus exactement le contexte, et un jeune adolescent se lève au fond de l'église comme un ressort, là, tac, il a jailli comme ça, et il me dit c'est pas possible, vous ne pouvez pas être dyslexique, vous écrivez des livres. Et puis je lui dis oui, j'écris des livres, mais je suis dyslexique, je veux dire, voilà, c'est quelque chose, ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé, je suis parti de cette faiblesse, mais je suis arrivé à ça. Il me dit oui, mais vous écrivez sans faute. Parce que moi, il me dit, moi, je suis dyslexique et je fais des dizaines et des dizaines et des dizaines de fautes. Et j'ai regardé et je lui ai dit, écoute, quand j'avais ton âge à l'école, que le prof me rendait ma dictée, il me disait, quand tu auras 20 fautes ou 30 fautes ou 40 fautes de moins, tu mériteras ton A. Et là, il m'a regardé avec des grands yeux. Et j'ai vu dans son regard s'illuminer l'espérance. Parce qu'il a vu, non pas quelqu'un d'incapable en face de lui, mais quelqu'un qui avait la même faiblesse que lui et qui avait pu arriver à faire quelque chose avec cette faiblesse-là. Et je crois qu'il y a dans nos faiblesses, quand nous acceptons de les partager, quand nous les acceptons déjà tout simplement, il y a aussi une très très grande richesse. J'aime beaucoup cette phrase de Leonard Cohen qui dit « Il y a une fêlure en toute chose, c'est comme ça que la lumière pénètre. » C'est comme ça que la lumière pénètre. Vous savez, les gens lisses, les gens parfaits, c'est souvent des gens obscurs, il n'y a pas de lumière qui peut entrer en eux. Mais si nous sommes un peu craquelés, même peut-être, pourquoi pas, fracassés, parce que la vie a été compliquée, difficile pour nous, alors par ces fentes, par ces cicatrices, par ces blessures, la lumière du Christ peut entrer en nous, mais peut également jaillir de nous. Et je crois que là, il y a une belle image, je pense, de ces talents que Dieu veut nous donner selon notre force. Il y a des gens qui sont plus fracassés que d'autres, peut-être parce qu'ils sont plus fort que d'autres, plus fort pour pouvoir supporter les blessures que la vie leur a infligées. D'autres sont beaucoup plus fragiles et puis voilà, ils restent plus intacts dans leur vie. Nous n'avons pas à nous mesurer, à nous comparer les uns les autres. C'est pas un jeu. On n'est ni à Miss France, ni rien. On est dans la réalité de nos vies. Nous sommes chacun des êtres différents. Nous recevons de la part de Dieu ce qui est bon pour nous, ce que nous pouvons porter. Et Dieu nous fait confiance et Dieu espère en nous. Alors que faire avec ces biens du Maître? Eh bien, tout simplement, d'abord, les reconnaître. Je crois que ça, c'est un travail important. C'est peut-être même un travail communautaire, reconnaître nos dons. Je me rappelle une fois dans une communauté, on a fait cette expérience de passer une journée ensemble dans le même lieu, c'est-à-dire dans la salle de réunion, et de réfléchir dans le silence aux dons et aux compétences que nous décelons dans les gens qui nous entourent, donc dans les gens de la communauté. Et ensuite, on a mis ça en commun. Et ça a été, pour beaucoup, une extraordinaire expérience, parce qu'ils ont découvert, ils se sont découverts dans le regard des autres. Et ils ont appris ainsi à reconnaître et à recevoir des talents qu'ils n'avaient jamais identifiés. Une fois qu'on reconnaît ces talents, ben, il faut en mesurer le poids. Hein. Le gars qui est parti avec ses 125 kilos, je veux dire, peut-être qu'il enviait celui qui en avait reçu que 25, hein, parce que c'était lourd, c'était pesant. Ça, voilà, c'était sur ses épaules, je ne sais pas comment il a porté ça, mais c'était lourd. En hébreu, la gloire, c'est le même mot que le poids. C'est lourd. La gloire, c'est le poids, c'est la lourdeur des choses, c'est la pesanteur des choses, dans le sens positif, hein, pas dans le sens lourdeur, c'est kata, etc. Mais dans le sens positif des choses. Quand on donne de la gloire à quelqu'un, ça veut dire qu'on lui donne du poids. Et quand nous recevons ces cadeaux de Dieu, nous recevons en quelque sorte une mesure de gloire, une mesure de poids. Et puis après, bien, il faut les faire fructifier. Comment est-ce qu'on fait fructifier quelque chose? Ben, si vous avez un jardin, vous savez, il faut arroser de temps en temps, il faut prendre soin, et puis il faut laisser les choses se faire. Et les choses se font finalement assez facilement. Alors, les deux premiers serviteurs, on les connaît, ça s'est bien passé, ils ont cru en la confiance du maître. Donc, ils ont accepté le cadeau et ils se sont dit, voilà, notre maître nous fait confiance. Comme quand le patron nous donne une tâche et qu'on est fier de cette tâche et qu'on sait que notre boss nous fait confiance. Ils ont compris quelque chose de l'amour de leur maître. Alors là, on sort peut-être de la sphère professionnelle, parce que je ne suis pas sûr que notre patron nous aime, que ce soit le rôle de notre patron de nous aimer. On est dans une autre dimension. Mais dans le cadre de notre relation avec Dieu, c'est une chose qui est extrêmement importante. Comprendre, avoir compris que Dieu nous aime. Ils ont osé s'approprier le don du Maître. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas considéré comme quelque chose d'étranger à leur vie. C'est devenu leur chose à eux. Ils ont pu travailler avec parce que c'était à eux, ça faisait partie intégrante de leur vie. Et du coup, tout naturellement, ils ont fait fructifier leur bien, et ils vont être récompensés avec la même générosité qu'ils ont mise à accomplir leur tâche. Tout à fait naturellement. Ça, c'est la vision idéale. C'est comme ça que Dieu aimerait que nous soyons, c'est comme ça que nous espérons être. Mais il y a le troisième serviteur. C'est toujours embêtant parce qu'il y a toujours celui qui ne fait pas bien, hein, et on aimerait bien pouvoir l'oublier, surtout qu'on a, selon notre caractère, une fâcheuse tendance à s'identifier avec celui qui ne fait pas bien. Donc voilà. Ça, puis comme c'est la fin de l'histoire, ça finit un petit peu mal. Le troisième serviteur, est-ce qu'il a été frustré d'avoir reçu un seul talent? Vous savez, vous êtes là, il y a cette expression qu'on dit parfois de quelqu'un qui n'a pas très illuminé, on dit qu'il a, il a raté son tour à la distribution de matière grise. Hein. Il, quand, quand Dieu a donné l'intelligence, il n'y en avait plus beaucoup dans le sachet, et puis il a juste reçu un petit peu. Et peut-être que le troisième serviteur, déjà il arrive en dernier, il voit cinq d'abord, trois, puis il reçoit plus qu'un, puis il se dit, ouais, pff, franchement, moi, je ne suis pas grand-chose, frustré. Il y a des chrétiens frustrés. On voit le fils aîné de la parabole du fils prodigue, hein, c'est un homme frustré. Je pense que dans nos églises, il y a pas mal de chrétiens frustrés. Des chrétiens qui se disent « moi je ne suis pas musicien, moi je ne sais pas parler, moi je ne sais pas ci, moi je ne sais pas ça, je n'ai rien reçu de bien, je suis frustré ». Et ils regardent avec envie ceux qui savent, ceux qui font bien, ceux qui réussissent, ce qu'on met en avant toujours, qu'on cite, à qui on demande des choses, à qui on fait confiance, et eux, ils sont frustrés. Alors, avant d'aller plus loin, il serait peut-être intéressant de voir combien ça vaut, ce fameux talent que le maître donne à cet homme. Alors, un talent, ça a une valeur de 6000 deniers. Ça ne vous change pas la vie hein, de savoir ça, parce que voilà, ça, c'est rien de plus qu'avant. Mais on sait qu'un denier, c'est le salaire, à peu près le salaire d'une journée de travail. Donc, 6 000 deniers, c'est l'équivalent de 6 000 jours, du salaire de 6 000 jours de travail, soit l'équivalent de 16 ans et demi de salaire. Alors maintenant, j'ai fait un petit calcul parce que il faut remettre ça dans notre contexte à nous, en partant d'un salaire moyen de, disons, 5 000 francs, ça représente à peu près, on va chipoter sur les centimes, à peu près 1 million de francs. Quand même. Hein? Il a reçu, notre cher ami, il a reçu un seul talent, mais il a reçu l'équivalent actuel d'un million de francs. Ça veut dire quand même que Dieu lui fait confiance, hein, que le maître lui fait confiance. Moi, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise où mon patron, mon directeur, m'a confié 1 million de francs, comme ça. On a des compétences financières dans les entreprises, mais 1 million, jamais. Il faut travailler à l'UBS ou je ne sais pas où, puis encore dans les sphères tout en haut, pour avoir des sommes pareilles à disposition. Vous imaginez quand même, c'est pas rien. Ce que le maître donne à ce serviteur-là. Ce n'est pas juste une petite obole, voilà, tiens 100 balles et puis essaye de faire quelque chose avec toi. De toute façon, toi, tu es un loser, donc je vais pas te donner grand-chose. Non, il lui donne 1 million à ce loser-là. Ah, c'est quand même un loser de confiance. Hein? On peut y aller avec ça. Mais ce serviteur-là, il n'a pas cru à l'amour du maître. Si vous lisez ce qu'il dit, il dit, voilà, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté, tu es un maître dur, exigeant. Il n'a pas osé, du coup, s'approprier le talent. Il l'a pris et l'a enfoui dans la terre. Il a eu peur. Il a eu peur de cet argent qu'on lui a donné et il a eu peur de ce maître qui l'effraie, qui le domine, qui est difficile pour lui. Alors il se réfugie dans les préceptes, les règles et les lois. Ce qui nous échappe un peu dans ce texte, c'est que, mais que les auditeurs de Jésus connaissaient bien, c'est qu'il y a une loi rabbinique qui dit que si on reçoit un trésor, de quelque nature qu'il soit, on gage, et qu'on ne veut pas en accepter la responsabilité, eh bien on doit le prendre, on doit l'emballer dans un linge pour le protéger et l'enfouir dans la terre. Et ainsi, on est libéré de la responsabilité du don qui nous a été fait. On n'en est plus responsable. Et c'est exactement ce que fait cet homme. Il se libère de cette responsabilité-là. « Ah non, moi, je ne veux rien avoir à faire avec ça. C'est trop compliqué. C'est trop difficile. Dieu est trop exigeant. Alors, je prends, j'enfouis et j'attends le retour. » Et au retour du maître, eh bien, on verra bien ce qui se passe. Et quand le maître revient, effectivement, c'est très intéressant de voir cela, le maître va se présenter avec lui en fonction de l'image que le serviteur se fait de lui. Il va se présenter comme un maître dur et exigeant, alors qu'il n'est ni dur ni exigeant. Mais pour le serviteur, c'est tellement clair que le maître se dit « bon ben voilà, je vais essayer de correspondre à l'image qu'il se fait de moi ». Et ce serviteur est balayé, il est mis de côté avec beaucoup de dureté, et c'est quelque chose qui nous fait mal. Et puis il y a cette phrase finale où il nous a dit « eh bien, même à ce moment-là, il est un serviteur inutile ». Il y a d'autres textes qui nous parlent de ça. Il y a un autre passage dans l'Évangile où Jésus dit à ses disciples, il leur dit, quand vous aurez fait tout ça, quand vous aurez tout accompli, tout fait tout bien, ramassez vos 5 talents et puis vous les aurez fait fructifier à fond, vous serez quand même et malgré tout des serviteurs inutiles. Ça, c'est un petit clin d'œil de Dieu pour nous dire tout ce que vous faites, c'est bien, c'est magnifique, mais ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est la confiance que vous avez découvert en vous-même et en moi. C'est l'amour que vous avez pu développer pour vous, pour moi et pour les autres au travers de votre travail, au travers de ce travail de fructification. C'est ça qui est important. Alors la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, peut-être en conclusion de tout cela, c'est quelle image est-ce que j'ai de moi-même, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de reconnaître les talents incroyables, les millions que Dieu m'a confiés, qui font partie de mon être, de mes capacités, de mes compétences, de mon environnement. Est-ce que je suis capable de reconnaître cela? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelle image est-ce que j'ai de Dieu? C'est de ces deux réponses, je pense, que va dépendre la qualité, finalement, de notre vie et notre fécondité, notre capacité à produire quelque chose, pas seulement pour nous-mêmes, pas seulement pour la société, mais pour le royaume de Dieu. Quelle image est-ce que j'ai de Dieu? Si j'ai l'image d'un Dieu dur, méchant, si j'ai l'image d'un Dieu qui me frustre, qui me pousse dans des situations que je n'arrive pas à gérer, alors il y a quelque chose certainement à guérir, quelque chose à changer. Mais si j'ai une image de Dieu qui est une image d'amour, alors on entre là dans une réflexion et dans une dimension qui va être féconde, riche, qui va permettre véritablement de faire fructifier les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Et je vous laisse comme phrase finale, aimer quelqu'un, c'est espérer en lui. Aimer quelqu'un, c'est espérer en lui. Dieu nous aime et il pose sur nous un regard d'espérance. Amen.